Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Amis auditeurs, très ravis de vous retrouver encore une fois. J'ai le grand plaisir de vous présenter en ce lundi 14 juin 2021 le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Des bases US sous la loupe des forces armées iraniennes. Pour le deuxième jour consécutif, les forces d'occupation turques et leurs mercenaires terroristes ont bombardé aux roquettes et à l'artillerie la localité libérée de Talmand, dans la banlieue sud d'Idlib en Syrie, et au moins 13 personnes ont été tuées et 16 autres blessées dans des affrontements au Soudan du Sud. C'était les principaux titres. En voici le journal. Dimanche 13 juin, à l'occasion de la Journée nationale de la géographie, le général de brigade Majid Fakhri, chef de l'organisation géographique des forces armées iraniennes, a déclaré que l'une des tâches de cette instance était de collecter les informations nécessaires aux forces armées des pays voisins et lointains. Outre la collecte des informations sur les bases américaines, l'Organisation géographique des forces armées est chargée de collecter les informations dont ont besoin des forces armées dans tous les pays voisins et lointains. Une fois ces informations géographiques seront mises à la disposition des forces armées, elles pourront désormais surveiller à de courts intervalles tout changement dans les bases ou la relocalisation des systèmes de défense américains, a-t-il fait savoir, et de poursuivre. L'observation de la localisation des systèmes de défense permet d'identifier les emplacements stratégiques du pays où est installé ce système, également de détecter ses angles radar en fonction des performances radar du système. Ces dernières années, la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique, le CGRI, a testé plusieurs nouveaux acquis pour affronter les sites de défense aérienne américains. La Force aérospatiale du CGRI a dévoilé des variantes du missile balistique Fateh 100 appelé Hormoz 1 anti-radar et Hormoz 2 anti-navire. Les deux missiles auraient une portée allant jusqu'à 300 km. Parmi 59 310 000 électeurs iraniens éligibles aux élections du 18 juin, 1 392 148 personnes sont les électeurs votant pour la première fois, a déclaré le chef du comité électoral d'Iran. Jamal Orf a déclaré lundi lors d'une conférence de presse « Nous avons préparé plus de 67 000 bureaux de vote pour l'élection présidentielle et 75 000 bureaux de vote pour les élections des conseils municipaux et 450 bureaux de vote pour les Iraniens de la diaspora à travers le monde. 1,5 million de cadres, de superviseurs et d'inspecteurs sont engagés dans l'organisation de ces élections. » Le chef du comité électoral du pays a déclaré à propos du nombre des électeurs iraniens 29 310 307 hommes et 29 980 038 femmes sont éligibles pour voter
1,392,148 sont des électeurs votant pour la première fois. Les protocoles sanitaires sont complètement respectés dans la fourniture des éléments électoraux électroniques et non électroniques ainsi que des appareils de l'authentification dans les bureaux de vote. La vaccination de 5,500 agents exécutifs a déjà été effectuée. Cette vaccination est administrée en utilisant le vaccin iranien avec la coopération du ministère de la Santé, a ajouté le responsable iranien. L'une des possibilités probables dans les élections présidentielles est la tenue du second tour. Dans ce cas, les bulletins de vote nécessaires seront immédiatement imprimés et le second tour aura lieu le 25 juin, a souligné le vice-ministre iranien de l'Intérieur. Les convoyeurs sont toujours la cible des attaques de la résistance irakienne. Le Hezbollah irakien met en garde les États-Unis contre le maintien de leur présence militaire sur ce territoire alors que l'armée de l'air Daesh al-Shabi impose toute sa puissance. Les Irakiens sont déterminés à chasser les occupants de leur pays. Quatre convois logistiques des troupes militaires américaines en Irak ont été pris pour cible dans les provinces de Hilla, Nasiriyah, Samava et Divaniya. Une énième attaque de ce genre menée contre les Américains qui auraient dû quitter l'Irak depuis longtemps, suivant le décret parlementaire irakien qui exige le départ des forces américaines du territoire. Depuis, les groupes et mouvements irakiens ne cessent de rappeler aux occupants américains la nécessité de ce retrait. Tout récemment, les brigades du Hezbollah irakien ont averti que si Washington ne retirait pas dans les plus brefs délais ses troupes militaires d'Irak, il serait pris au dépourvu. Les brigades du Hezbollah irakien ont mis en garde ces derniers mois et à plusieurs reprises contre le maintien de la présence militaire américaine en Irak qui contredit manifestement la loi ratifiée par le Parlement irakien au sujet du retrait des troupes militaires US d'Irak. Les Daesh al-Shabi ont dévoilé le samedi 12 juin une partie de leur nouvelle force aérienne composée d'un certain nombre de drones. Malgré l'assassinat d'Abou Mahdi al-Mohandes lors d'une frappe aérienne américaine en janvier 2020, son projet de créer une armée de l'air pour la force de mobilisation populaire irakienne, Daesh al-Shabi, est toujours d'actualité. Le projet avait été annoncé en septembre 2019, où l'ingénieur Saleh Mahdi Hantouche a été nommé à la tête de cette armée de l'air, a annoncé le site web d'information irakien Maalouma. En Syrie, pour le deuxième jour consécutif, les forces d'occupation turques et leurs mercenaires terroristes ont bombardé aux roquettes et à l'artillerie la localité libérée de Talmand dans la banlieue sud d'Idlib. Le correspondant de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, a fait savoir que les forces d'occupation turques et leurs mercenaires du réseau Front al-Nusra avaient attaqué par roquettes et d'obus mortiers la localité de Talmaz et sa périphérie dans la zone de Marat al-Nouman, dans la banlieue sud d'Idlib, ce qui a fait des dégâts matériels dans les infrastructures d'installations agricoles. Dans le contexte de nouveaux agissements de groupes terroristes soutenus par la Turquie dans la province syrienne d'Idlib, la Russie s'est dite prête à utiliser ses bombardiers à longue portée pour frapper les fiefs des mercenaires à la solde d'Ankara. Les experts estiment que leur déploiement à la fin du mois dernier sur la base aérienne de Hameymem était un avertissement à l'adresse de la Turquie à ne pas frapper les positions des militaires syriens et russes. Après la modernisation des infrastructures de la base aérienne militaire russe Hameymem, située dans la province syrienne de Latakia, la Russie peut en quelques heures déployer ses bombardiers à longue portée en Syrie et lancer des frappes précises sur les repères des terroristes et des mercenaires affiliés au gouvernement turc. Les frappes de trois bombardiers Tu-22M3 suffiront à éliminer plusieurs milliers de terroristes en une seule sortie, soulignent certains experts. Il est peu probable que la Turquie ose intervenir dans le conflit, sachant très bien qu'un conflit avec la Russie peut entraîner de lourdes pertes dans les rangs de l'armée turque. Depuis que la Russie a engagé des forces en Syrie afin de soutenir l'armée syrienne, des bombardiers stratégiques Tu-22 Backfire ont eu l'occasion d'effectuer plusieurs dizaines de raids aériens contre les groupes terroristes. Le Palestinien Ahmed Jibril Farisi Bril poursuit pour le quatrième jour consécutif sa grève de la faim devant le bureau du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF dans la zone Meza à Damas en signe de protestation contre l'occupation américaine et turque de certains territoires syriens et le vol de leurs ressources naturelles. Dans une déclaration correspondant de Sanaa, Jibril a fait savoir que la poursuite de la grève de la faim intervient pour réclamer la nécessité de lever le siège injuste contre le peuple syrien dans les plus brefs délais, soulignant les graves violations par les forces d'occupation américaines et turques des territoires syriens et le vol de leurs ressources naturelles telles que les carburants, le blé et autres, au moment où elle demande l'envoi d'aide au peuple syrien. Au moins 13 personnes ont été tuées et 16 autres blessées dans des affrontements au Soudan du Sud. Des affrontements intercommunautaires à Umbekest ont fait 13 morts et 16 blessés dans l'état instable des lacs dans le centre du Soudan du Sud, a déclaré dimanche 13 juin la police locale. Les combats ont commencé samedi matin et ont fait 13 morts et 16 blessés. Le calme est revenu après le déploiement des forces de sécurité, a indiqué M. Makwach dimanche. Les deux communautés sont en conflit depuis une décennie et les violences sont souvent caractérisées par des vols de bétail et des meurtres de représailles, a-t-il précisé. Un grand nombre d'armes illégales circulent parmi la population civile de l'État des Lacs. Les tentatives de désarmement des civils par les autorités locales n'ont pas porté leurs fruits jusqu'à présent, ce qui a conduit à des morts tant chez les civils que chez les militaires. Le principal défi auquel nous sommes confrontés dans l'État est la présence d'armes en main des civils. Il y a des armes partout dans l'État des Lacs. Les civils sont en possession d'armes dans le village et les exploitations de bétail, selon M. Makwach, porte-parole de la police de cet État. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Peur de guerre, les États-Unis rameutent le G7 contre la Chine. Les États-Unis prévoient de pousser leurs alliés occidentaux à critiquer publiquement la Chine pour les pratiques de travail forcées alors que les dirigeants du groupe des sept se réunissent pour le deuxième jour de leur sommet en Angleterre. Le président américain Joe Biden entend exhorter les dirigeants du G7 à s'allier contre la Chine et à rivaliser avec elle. La proposition provocatrice fait partie de la campagne croissante du président Biden pour amener les autres dirigeants du monde à présenter un front plus unifié pour concurrencer économiquement la Chine au cours du siècle à venir, selon de hauts responsables de l'administration américaine sous le sceau de l'anonymat. Ces responsables ont déclaré que Biden souhaitait que les dirigeants du G7 s'expriment d'une seule voix contre les pratiques de travail forcées ciblant les minorités ethniques, ce que démentent les autorités de Pékin. Biden espère que la dénonciation fera partie du communiqué conjoint publié à la fin du sommet, mais certains alliés européens ont été réticents à se séparer avec autant de force de Pékin. Quelques semaines avant l'entrée en fonction de Biden l'année dernière, la Commission européenne a annoncé qu'elle était parvenue à un accord avec Pékin sur l'accord global sur l'investissement, un accord destiné à fournir à l'Europe et à la Chine un meilleur accès à leurs marchés respectifs. L'administration Biden avait espéré avoir des consultations sur le pacte. En effet, les efforts des États-Unis pour engager l'Europe ont lieu à un moment où la position de l'Union européenne sur la Chine est très controversée. Les priorités financières et stratégiques de l'Europe sont assez différentes de celles des États-Unis et il y a un risque que ces différences deviennent apparentes. Biden cherche à former des coalitions pour condamner la Chine concernant les allégations de droits de l'homme à Hong Kong et au Xinjiang, ainsi que pour les politiques de Pékin sur les voies navigables stratégiques de la mer de Chine méridionale et de la mer de Chine orientale. Le G7 a notamment lancé un vaste plan mondial d'infrastructures pour les pays pauvres et émergents à l'initiative du président américain et afin de concurrencer les nouvelles routes de la soie mises en place par Pékin, que ce soit en Amérique latine, en Afrique ou Asie. D'un autre côté, l'Union européenne et les États-Unis prévoient de trouver des moyens d'élaborer des politiques sur des questions telles que l'échange de connaissances techniques avancées avec la Chine. Réunis jusqu'à dimanche dans le sud-ouest de l'Angleterre, les chefs d'État et de gouvernement de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni, du Canada, du Japon et des États-Unis ont jusqu'à présent affiché leur unité à la faveur de la traditionnelle photo de famille vendredi. Ces dernières années, les États-Unis et leurs alliés européens ont imposé des sanctions à des responsables chinois sous divers prétextes. Le gouvernement américain a récemment placé 28 entreprises chinoises sur sa liste noire en prétendant que ces entreprises avaient des liens avec l'armée chinoise, ce qui interdit aux entreprises américaines d'établir des liens commerciaux avec elles. La Chine, quant à elle, elle a adopté jeudi 10 juin une nouvelle loi radicale visant à protéger les entreprises et les entités chinoises contre les sanctions occidentales, notamment américaines, quelques heures à peine avant que le président Joe Biden ne rencontre les dirigeants du G7 en Cornouailles pour plaider en faveur d'une position commune sur la réduction de l'influence de la Chine.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce dimanche 13 juin 2021. Décidément, l'entité sioniste se trouve au pied du mur en Cisjordanie, quelques semaines après la guerre de 11 jours contre la bande de Gaza, une guerre qui s'est soldée par une victoire significative de la résistance palestinienne. Et désormais, le régime de Tel Aviv redoute en effet une intifada armée en Cisjordanie et les récents événements survenus justement en Cisjordanie occupée viennent confirmer cette réalité. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette potentielle intifada armée contre le régime de Tel Aviv et les répercussions, bien sûr, de la victoire de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza contre, assure en effet, le cours des événements en Cisjordanie. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Selon Rayal Yaoum, la situation en Cisjordanie est totalement bouleversée ces jours-ci et les informations préliminaires annoncent la possibilité d'une explosion et d'une intifada armée contre des forces d'occupation similaires à ce qui s'est passé en 2000. Comme preuve, on peut citer premièrement le martyr de 3 Palestiniens, dont 2 membres des forces de renseignement militaires palestiniennes, et le troisième, un ancien prisonnier de guerre, lors d'un affrontement avec l'armée israélienne à Jenin. Dans la foulée, le ministre palestinien de la Santé a fait part ce vendredi de la mort en martyr d'un adolescent palestinien de 15 ans par balle des militaires sionistes à Naplouse, en Cisjordanie. Deuxièmement, l'appel de l'autorité palestinienne à ses effectifs à protéger les territoires occupés des attaques israéliennes et contrer les actions provocatrices des colons à Rots et dans la région menacée, telles que Salwan et Sheikh-Jarrah. Troisièmement, l'autorité palestinienne et ses dirigeants n'ont pas été les vrais vainqueurs de la récente guerre de Gaza, où seule la résistance a assumé la tâche de défendre la mosquée d'Al-Aqsa. 11 jours de résistance suite à laquelle le premier ministre israélien a été contraint de se tourner vers le président américain Joe Biden pour l'établissement d'un cessez-le-feu. Selon les informations, il y a des signes de désobéissance des forces de l'autorité palestinienne à l'encontre de leurs commandants. Ces forces ont lancé à cet égard des opérations contre les occupants sionistes, notamment à Jenin. C'est la première fois que les forces affiliées à l'autorité palestinienne combattent les forces israéliennes depuis 2000, alors qu'au début, il avait été établi que les forces sécuritaires de l'autorité autonome empêchent, en coopération avec l'appareil sécuritaire israélien, les opérations martyrs en Cisjordanie. À l'heure actuelle, il existe des armes à feu qui se dirigent en Cisjordanie, ainsi que vers les territoires occupés de 1948. En effet, une nouvelle intifada armée en Cisjordanie porterait un coup dur à la sécurité du régime israélien, étant donné le tissu démographique mixte composé d'Arabes et de Juifs dans divers quartiers et colonies. Et imaginons que la technologie balistique dont profite actuellement la résistance palestinienne à Gaza tombe aux mains des combattants palestiniens en Cisjordanie. La nouvelle intifada cisjordanienne sera conçue, non pas avec des armes légères, mais avec des frappes aux missiles, pareilles aux récentes attaques aux missiles et roquettes depuis la bande de Gaza contre les profondeurs d'Israël.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles Luc Michel, géopoliticien, et depuis Alsace, Maître André Chamy, juriste international et sociologue. Maître Chamy, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous et surtout pour votre invitation et bonjour à M. Michel.
Maître Chamy, quel premier regard portez-vous sur les récents événements survenus en Cisjordanie occupée quelques semaines après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza? Est-ce qu'il faudrait s'attendre à une intifada armée en Cisjordanie?
En réalité, je dirais que le mal est beaucoup plus profond qu'une simple intifada, parce qu'aujourd'hui, je pense que de véritables fissurations, si j'ose dire, dans l'entité sioniste se sont clairement manifestées, notamment à travers la dernière guerre qui a duré 10-11 jours, parce que c'était en quelque sorte la démonstration de la faiblesse et de la fragilité de cette entité. À partir du moment où on déplace la guerre à l'intérieur des frontières qu'elle s'était décidée, parce que sa frontière ou ses frontières ne correspondaient pas à ce qui existe actuellement, puisqu'ils ont grignoté au fur et à mesure des territoires dits palestiniens, au point aujourd'hui que l'État palestinien qui était préconisé en 1948 ne peut plus exister. C'est-à-dire que c'est même pas un rêve, c'est plutôt même un cauchemar. Puisqu'il suffit de regarder la carte actuellement de l'ancienne Palestine, qui est toujours dans la mémoire de tous, qui est toujours, on va dire, dans les gènes de tous et de tous les habitants autochtones de cette zone-là, pour voir que la partie qui était considérée comme démographiquement plus peuplée par les Palestiniens, aujourd'hui, les Palestiniens sont obligés d'être repoussés dans des zones où il y a quasiment plus moyen de vivre, même de survivre. À un moment donné, les Palestiniens devaient donc renverser la table. Et je dirais, l'opération a commencé d'abord par l'idée de s'armer. Même si c'était dans la bande de Gaza, mais il fallait comprendre que l'autorité palestinienne a échoué depuis les accords d'Oslo jusqu'à maintenant, c'est un échec total. C'est-à-dire, d'abord, l'idée de négocier, c'est une stupidité monstre. C'est la constatation que Arafat s'est planté totalement depuis le début et Abbas a encore commis plus d'erreurs parce que lui, il a lâché systématiquement à tel point qu'il est devenu le collaborateur objectif de l'entité sioniste. Pire encore, son responsable de sécurité, Dahlan, est devenu quasiment un agent de la sécurité israélienne, et aujourd'hui il est plus considéré comme israélien que palestinien. C'est-à-dire l'appareil sécuritaire lui-même est devenu en quelque sorte inféodé à l'occupation. Les Palestiniens qui ont leur fierté, qui ont leur projet national, qui ont leur idée sur ce qu'ils voudraient faire dans l'avenir, bien entendu, ne pouvaient plus continuer comme ça. Et à partir du moment où on commence à retourner la table, quitter la bande de Gaza, tout le monde s'apprêtait en quelque sorte à réaliser ce qui a été annoncé depuis des années, mais depuis quelques mois, y compris par les responsables iraniens, en disant tôt ou tard, la révolte viendrait de l'intérieur. Et effectivement, l'heure de la révolte de l'intérieur a commencé et aujourd'hui, nous y sommes. Et jusqu'à présent, Israël craignait pour ses frontières, c'est-à-dire elle essayait de voir plus au-delà de sa frontière, c'est la raison pour laquelle elle s'en prenait à la Syrie, elle s'en prenait au Liban, et par le passé, elle s'en prenait à l'Égypte. Elle a sécurisé en quelque sorte ses frontières du côté égyptien et du côté jordanien, sauf qu'il reste encore deux front qu'on appelle des fronts de la résistance, c'est-à-dire le Liban et la Syrie. Sauf que le danger est maintenant est de l'intérieur, c'est-à-dire les frontières n'existent plus. Et aujourd'hui, le cancer qui ronge l'antisémitisme est déjà en son sein. Là, aujourd'hui, à mon sens, il est en train de métastaser, et le cancer, aujourd'hui, pour l'antisémitisme, ça s'appelle l'axe de la résistance. Et plus particulièrement, les combattants palestiniens qui vont être, en quelque sorte, les bouts d'explosifs qui vont péter à travers ce territoire jusqu'au point où cette entité s'effondrerait. Et à mon avis, la marche a commencé et nous verrons dans les prochains mois comment les choses vont avancer. Mais à mon sens, aujourd'hui, l'histoire ne peut plus reculer. Aujourd'hui, l'histoire est en train d'avancer dans le sens de la libération du peuple, de l'émancipation des peuples et bien entendu, l'autodétermination du peuple palestinien.
Merci infiniment, Maître Chami, pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles M. Luc Michel, géopoliticien. M. Michel, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous, bonjour à Maître Chami, à vos téléspectateurs.
M. Michel, Maître Chami l'a rappelé, la profonde fissure s'est manifestée, en effet, au sein de l'entité sioniste, non seulement lors de la récente guerre contre la bande de Gaza, mais aussi sur le plan politique, en effet, eu égard à ce qui s'est passé récemment au sein de cette entité. Quelles seront les retombées, en effet, de cette faiblesse, de cette fissure sur les événements en Cisjordanie occupée? Est-ce qu'une révolte
a profondément changé?
Oui.
On n'avait plus espéré du côté israélien un lent étouffement de la résistance, et ce n'est pas le cas. La résistance palestinienne aujourd'hui est au devant de la scène, mais les conditions stratégiques ont profondément changé au Proche-Orient. Il y a d'autre part la parité stratégique avec l'axe de la résistance. Il y a le fait qu'aujourd'hui, la Russie est tout à fait du côté de l'axe de la résistance. C'est fini la longue période de neutralité qui avait suivi l'implosion de l'Union soviétique. Mais surtout, les Israéliens ne sont plus en mesure de mener de grandes opérations contre leurs voisins pour gagner du temps. Ils sont dirigés vers des objectifs intérieurs. Et donc, il y a une double radicalisation. Il y a une radicalisation des forces palestiniennes, notamment au détriment des modérés de l'autorité palestinienne, dont la stratégie est un échec complet. Mais également, il y a une radicalisation de la partie du Likoud que contrôle encore Netanyahou. Netanyahou est prêt à tout pour jeter de l'huile sur le feu pour se maintenir au pouvoir. Il a notamment favorisé ce qu'on appelle cette marche des drapeaux, qui est une provocation qui sera sanglante dans la vieille ville de Jérusalem, une provocation des colons de l'extrême droite israélienne. Netanyahou avait espéré être encore Premier ministre au pouvoir lorsque cette opération existerait, et il cherche ouvertement une explosion, bien entendu, pour toujours jouer la vieille stratégie de l'Union nationale et du gouvernement israélien qui doit faire face à ses ennemis intérieurs. On est donc dans une situation inédite depuis de nombreuses années et qui laisse espérer enfin un espoir pour le peuple palestinien.
Merci pour ces éclairages, M. Michel, restez avec nous. Maître Chami, cette double radicalisation, comme disait M. Michel, au sein du Likoud, mais aussi en ce qui concerne justement alors l'autorité autonome palestinienne, dont la stratégie est un échec complet. Alors, cette double radicalisation, quel en sera l'impact sur le plan sécuritaire et politique dans les territoires palestiniens occupés surtout?
Bah aujourd'hui, les lignes sont claires, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui veulent faire aboutir le projet palestinien avec la création d'un État. Et selon moi, aujourd'hui, même l'idée de deux États n'existe plus, c'est-à-dire que tôt ou tard, on va aboutir à un État unique sur l'ensemble du territoire palestinien avec intégration de toutes les communautés, c'est-à-dire il n'y aura plus de communautés juives, de communautés musulmanes, de communautés arabes. Ce sera une communauté qui vit sur ce territoire-là. Il y a également les migrants qui sont arrivés ici puis qui étaient en quelque sorte comme des mercenaires, c'est-à-dire ils sont venus pour un projet économique parce qu'ils croyaient qu'à cet endroit-là, ils pouvaient revivre une sorte d'Eldorado. L'Eldorado ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Eldorado est menacé dans sa structure, dans ses fondations et dans son avenir. C'est-à-dire, il y a encore des Israéliens qui sont arrivés relativement récemment, en tout cas au cours des 30-40 dernières années, qui seront amenés à repartir. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, il y aura également une volonté d'Israéliens, notamment ceux qui sont les plus radicaux, pour reprendre le terme de Tzimtzel, par rapport au projet sioniste, encore que parce que les radicaux qui sont porteurs du projet sioniste sont plutôt des laïcs. C'est-à-dire qu'il y aura une opposition entre les laïcs et les religieux qui n'échappera à personne, et surtout pas à l'analyse de M. Michel. Et par conséquent, même là-dessus, il y aura encore une ulcération sociale parce qu'ils n'ont pas les mêmes projets. Il y en a un qui reconnaît l'existence de l'entité sioniste et d'autres qui ne le reconnaissent pas, qui en profitent. C'est-à-dire qu'ils intègrent, mais pour des raisons d'opportunité. Et vous avez en face, évidemment, les Palestiniens qui ont ce projet national qui est toujours en train de fermenter en eux et qui était toujours un rêve. Et maintenant, ils sont dans l'idée que ce rêve ou ce projet est à portée de main. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à mettre la main à la pâte pour que les choses avancent et pour que ce ferment prenne correctement et que ça entre au point de menacer la totalité de l'antisémitisme. À mon sens, la marche est déjà en cours. Nous sommes en train d'assister à des moments historiques et nous nous rappellerons de ces moments-là dans les prochains mois, je dirais au plus, tout au plus dans les prochaines années, pour constater qu'aujourd'hui même, c'était le déclencheur comme une espèce de détonateur d'une bombe qui vient d'être mis en route. Et là, aujourd'hui, c'est déjà le cas. Et nous verrons à quel moment la mèche va arriver jusqu'à la bombe pour exploser de l'intérieur ce régime, parce que c'est tout ce qui est artificiel, et bien entendu, finit par s'effondrer. Et aujourd'hui, nous sommes en train de se débarrasser de l'artificialité de cette entité pour aboutir au retour à ce qu'on appelle au corps naturel. C'est que, vous voyez, c'est comme les cours d'eau. Vous pouvez mettre ce que vous voulez pour barrer l'eau, il n'y a pas moyen, puisque l'eau retrouvera son cours. Et aujourd'hui, l'eau palestinienne est en train de renaître de ses, je dirais, de ses profondeurs pour émerger et créer ce torrent qui va emporter avec lui l'ensemble des extrémistes sionistes dans la région, et pour revenir en quelque sorte à un État comme ça l'a été par le passé, avant 48 et avant l'installation de l'entité sioniste, c'est un pays où il était cosmopolite, multiethnique, multireligieux, et aujourd'hui, c'est un régime d'apartheid. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les sionistes ne veulent pas entendre parler du mot apartheid, parce qu'ils savent ce qui s'est passé à la fin de l'apartheid. Et aujourd'hui, c'est en quelque sorte l'ANC palestinien qui se révolte pour aboutir à la disparition de l'apartheid israélienne. Et nous verrons encore une fois dans les prochains mois l'émergence de ce courant qui va emporter avec lui l'ensemble de ceux qui faisaient obstacle à cette émancipation.
Merci encore, Maître Chami. Monsieur Michel, donc aujourd'hui, l'entité israélienne est plus que jamais confronté à une explosion de l'intérieur, ce régime d'apartheid d'Israël. Vous avez rappelé tout à l'heure, justement, la situation, c'est inédit, notamment sur le front intérieur en Israël depuis de nombreuses années. Ceci étant dit, quelles sont les marges de manœuvre du régime de Tel Aviv et de son proche allié, l'administration américaine, Monsieur Michel?
De manœuvre sont de plus en plus limitées. La stratégie israélienne, elle a échoué. C'était celle de diviser les Palestiniens par la politique, mais la résistance, elle l'unifie. Le coup de dé israélien, c'était d'avoir divisé la Palestine entre Gaza, où était l'autorité palestinienne, et la Cisjordanie dans les mains du Hamas. Et il ne faut pas se voiler la face. À Gaza, les Israéliens ont même favorisé l'émergence du Hamas au détriment des forces comme le Fatah ou le SDLP. Mais c'est un échec global, c'est-à-dire que l'autorité palestinienne qui a voulu mener une politique de coexistence pacifique a complètement échoué. Elle n'a rien obtenu si ce n'est l'amoindrissement de son territoire par les colonies. Et donc maintenant, les Israéliens sont au pied du mur. Moi, je crains, évidemment, je vous l'ai dit, cette radicalisation. C'est ce qui s'est passé dans les dernières années de l'apartheid que vous citez fort justement en Afrique du Sud. On avait vu les généraux et les industriels de l'apartheid radicaliser la situation et même aller porter la guerre dans des pays voisins comme le Mozambique, l'Angola, etc., pour tenter une diversion. Je pense que ça va être un risque qui pèse, non pas sur la Palestine, mais sur tout Israël. Je ne crois pas au maintien de la majorité anti-Netanyahou, parce que c'est une majorité hétéroclite. S'il n'y a qu'un lien infimement, c'est la détestation de Netanyahou. Donc je ne crois pas que cette majorité, qui comprend au moins 14 grandes factions, qui vont des Arabes et qui vont des islamistes jusqu'à l'extrême droite religieuse, ce n'est pas tenable. Je crains donc un retour au pouvoir extrêmement rapide des extrémistes du Likoud, et même peut-être même un retour au pouvoir de Netanyahou, puisque visiblement ses adversaires font tout pour empêcher ce retour, mais que ce n'est pas un grand succès. Je pense que cette radicalisation est, contrairement à ce que pensent les Israéliens, c'est une chance pour les Palestiniens. Tout d'abord, la réunification des deux côtés de la Palestine, qui est indispensable. Secondement, la condamnation morale qui existe au niveau international. Même un sioniste acharné, comme le ministre français Le Drian, a utilisé le mot apartheid à propos de la politique israélienne. C'est une révélation. Je pense donc que les conditions ont changé et que ce qu'on pouvait craindre, c'est-à-dire un épuisement et un effondrement de la lutte palestinienne, ce sera au contraire de nouvelles années de lutte et de combat vers l'émancipation de la Palestine.
Une toute dernière question à Maître Chami. Maître Chami, donc cette réunification des deux côtés de la Palestine dans les circonstances actuelles, bien sûr, une réunification indispensable et plus que jamais réalisable, n'est-ce pas?
De toute façon, on y est déjà. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils ont compris que le peuple palestinien doit être uni, que ces divisions dont a parlé M. Michel ont existé. Effectivement, il y a eu une utilisation opportuniste du côté israélien, mais tout au début, parce qu'au début, ils croyaient qu'il fallait créer une menace qui déstabiliserait Arafat, parce qu'ils croyaient que leur ennemi était Arafat. Et puis finalement, je dirais presque indirectement Arafat dans sa politique est depuis leur allié. Et de ce fait, la masse, pour être présent et pour affirmer son pouvoir et son autorité avec les autres membres de l'axe de la résistance, c'est-à-dire le djihad islamique ou tous les autres combattants comme le Front de libération de la Palestine, tous ces fronts-là, évidemment, avaient besoin de s'affirmer face au laxisme de l'autorité palestinienne. Et évidemment, ce sont les partis qui sont devenus les véritables opposants de l'antisioniste. Et à ce moment-là, en quelque sorte, l'autorité palestinienne est dépassée maintenant. Et aujourd'hui, soit elle suit le mouvement, je dirais, sur courant, comme je l'appelais, qui va dans le sens de la libération, ou bien l'autorité palestinienne va être tout simplement délogée par sa propre population, parce qu'on va considérer que toute action, et d'ailleurs ça a été crié dans la rue au cours des dernières manifestations, qu'il faut arrêter toute coopération sécuritaire avec l'entité sioniste. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de communiquer une quelconque information sur les Palestiniens, sur leurs mouvements, sur leur armement, sur leurs déplacements. Ça, ce n'est plus possible. Et aujourd'hui, nous y sommes, c'est-à-dire... C'est la première annonce à l'attention de l'autorité palestinienne. Soit l'autorité palestinienne comprend, et ça va dans le bon sens, soit elle ne comprend pas, et à ce moment-là, c'est elle qui va payer le prix. Ça va être également l'autorité palestinienne, au même titre que l'antisioniste.
Merci infiniment, Maître André Chami, juriste international et sociologue depuis Alsace, Monsieur Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Iran, pays des merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Mes chers amis auditeurs, cette semaine, nous voulons nous rendre dans le quartier de Djolfa d'Ispahan pour vous présenter l'art qu'on remarque dans les monuments et églises de ce quartier arménien. Restez donc avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Le quartier arménien d'Ispahan date de l'époque de Shah Abbas Ier, qui déplaça toute la communauté chrétienne de Djolfa, petite ville de la province d'Azerbaïdjan orientale, à Ispahan, et nomma le village Nouvelle Djolfa. À l'époque des Safavides, Djolfa était une cité rattachée à Ispahan. De nos jours, elle est un quartier de la ville, perdant progressivement son identité d'antan et ses précieuses particularités architecturales. Djolfa compte aujourd'hui 15 églises, une trentaine de maisons anciennes et plusieurs autres monuments historiques datant de la période Safavide et Qajar. Les décorations de l'architecture de la nouvelle Djolfa d'Ispahan témoignent de l'art et du talent des anciens maîtres et artistes traditionnels, reflétant des aspects différents des croyances et des traditions des Arméniens d'Iran, chrétiens de culte grégorien. Une étude appliquée des décorations et des ornements architecturaux de Djolfa, décorations en briques, en plâtre, en mosaïque, en bois et les peintures murales permettra une meilleure connaissance de l'histoire de l'art et de l'architecture d'Ispahan de l'époque safavide et la protection efficace de son identité culturelle et historique. Alors qu'Ispahan venait d'être choisi comme capitale, une grande guerre éclata en 1587, 1013 de l'Égypte entre l'Empire ottoman et l'Empire perse des Safavides. Une grande partie de la population iranienne des régions situées à l'ouest de la mer Caspienne, dont un grand nombre d'Arméniens, durent quitter Chaldoran, Ararat et Djolfa pour des raisons politiques et sociales, mais aussi en raison des tactiques de guerre de Shah Abbas Ier et de ses généraux. Les villes et les villages du Sud-Caucase et de l'Azerbaïdjan se dépeuplèrent et les réfugiés s'installèrent dans les autres parties du pays. Les styles et les motifs décoratifs de la nouvelle Djolfa à Ispahan font partie intégrante des styles et des traditions de l'architecture iranienne de la même période historique. De nombreux facteurs sont alors à l'origine des décorations architecturales de Djolfa d'Ispahan. Le patrimoine commun de différents groupes ethniques, l'histoire commune de l'architecture des régions situées à l'ouest de la mer Caspienne, la culture dominante de l'époque, la situation géographique, la religion et les croyances des habitants, ainsi que la situation sociale, économique et culturelle de l'Iran des Safavides. L'usage de la pierre dans les villes arméniennes et iraniennes comme Erevan, Nakhchivan, Takab et Mararé remonte à l'époque de l'Empire sassanide. Les différents quartiers de la cité Djolfa d'Ispahan
prirent forme au rythme de l'immigration des Arméniens. La cité se trouvait en dehors des remparts entourant Ispahan. La partie ancienne de la cité, ancienne Djolfa, comprenait des quartiers créés à l'époque de Shah Abbas Ier, et la nouvelle Djolfa comptait des quartiers plus récents, datant de l'époque de Shah Abbas II. Le voyageur français Jean Chardin, qui avait visité Ispahan à l'époque de Shah Soliman, écrit dans son récit de voyage que la cité Djolfa d'Ispahan comptait 2 caravansérails, 11 églises, 2 écoles, 2 bains publics, une place centrale et quelques 3500 maisons. Dans ces quartiers, les décorations en briques, en pierre, en bois, en plâtre, en miroir et en peinture diffèrent sensiblement de par leur forme et leur thème des autres monuments d'Ispahan datant de la même période. Parmi les églises célèbres de la province d'Ispahan, on peut énumérer l'église Jacob, l'église Sainte-Marie, l'église Bethléem et la cathédrale Vanc, ou la cathédrale Saint-Sauveur d'Ispahan. Construite entre 1606 et 1655 à l'instigation des rois Safavides, la cathédrale Vanc, plus connue sous le nom de cathédrale Saint-Sauveur d'Ispahan, symbolise l'implantation de l'église arménienne en Iran. La sobre façade dissimule un intérieur richement décoré où les céramiques de l'art islamique côtoient les peintures chrétiennes. Un campanile se dresse dans la cour. La cathédrale Vanc est la cathédrale la plus visitée d'Ispahan. Vanc signifie monastère en arménien. La cathédrale abrite aujourd'hui un musée dédié à l'histoire des Arméniens de la Nouvelle Djolfa, une imprimerie ancienne, ainsi qu'une grande bibliothèque de manuscrits arméniens, au nombre de 700. Vue de la rue, la cathédrale a le même aspect qu'une mosquée, si ce n'est la croix au sommet du dôme. L'intérieur est recouvert de peintures racontant le martyr légendaire de Saint Grégoire l'Illuminateur, fondateur de l'église arménienne. À côté de l'église se trouve un musée de l'art arménien avec un mémorial du génocide arménien. Il est évident que l'architecture de Djolfa n'est pas restée totalement imperméable à l'influence de la perfection artistique et technique de l'architecture islamique, notamment les chefs-d'œuvre historiques et religieux d'Ispahan. Cependant, les architectes arméniens de Djolfa ont préféré ne pas décorer les dômes et les façades de leurs églises par les mosaïques turquoises des grandes mosquées de l'époque des Safavides ou des Rajar. Mais à l'intérieur de leurs monuments, surtout dans la cathédrale Vanc et l'église de Bethléem, on retrouve des décorations en mosaïque de toutes les couleurs avec des motifs végétaux et animaux. Sur la façade de la cathédrale Vanc, de l'église de Bethléem et de presque toutes les autres églises de Djolfa d'Ispahan, des mosaïques ont été utilisées pour créer des formes géométriques, des croix et des frises entourant les épigraphes. À l'instar de l'ensemble des monuments d'Ispahan, le bois a été utilisé à Djolfa pour construire les portes, les fenêtres, les balustrades, etc. Les portes et les fenêtres sont très finement travaillées. Là encore, les artistes arméniens de Djolfa se sont inspirés à la fois de la culture arménienne et des traditions de l'architecture islamique d'Ispahan. Les colonnes de bois de la maison de Sarkis, par exemple, reproduisent exactement la colonne du palais de Hashtbehesht. Les décorations en briques, en plâtre, en pierre, en mosaïque, en bois et les peintures murales des monuments et des églises de Djolfa d'Ispahan sont des œuvres des architectes et des artistes chrétiens et musulmans de 3 périodes historiques, Safavide, Rajar et Pahlavi. Ces décorations, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de ces monuments, reflètent une partie des croyances et des traditions des Arméniens qui vivent depuis des siècles dans la ville d'Ispahan. Par ailleurs, elles font partie du patrimoine collectif de toutes les ethnies iraniennes qui ont contribué à leur création.